Alors, 30 mars 2023, sixième séance de lecture consacrée à l'évolution créatrice de Bergson. Alors, faisons le point. Lors de la séance précédente, nous avons porté notre attention sur la fin du premier chapitre, qui recourt à l'image de l'élan vital. Et comme on l'a vu, cette image permet de saisir le dynamisme créateur de la vie et de dépasser par la même occasion les conceptions intellectualistes qui assimilent l'action de la vie à une fabrication, et les êtres vivants à des machines résultant d'un assemblage de pièces. Alors, c'est une image, hein, l'élan vital, qui permet, au fond, d'appréhender de façon approximative donc l'action, hein, de la vie. Et cette image permet donc de saisir comme de l'intérieur, le mouvement créateur de la nature. Et quand Bergson, à la fin du premier chapitre, parle de la nature, au fond, c'est le synonyme de la vie. C'est par une connaissance intime qui consiste à coïncider en sympathie avec l'objet qu'on cherche à connaître, eh bien, qu'on peut véritablement approcher justement cet être. C'est, vous voyez, par ce que Bergson appelle l'intuition, hein, qui désigne ce mode de connaissance, que l'on va pouvoir saisir donc le dynamisme créateur de la vie. Et pour connaître un être vivant, eh bien, il faut le saisir intuitivement, dans le mouvement même qui le constitue. Puisque ce qui constitue ici cet être, au fond, c'est la durée. Donc, il s'agit de le comprendre, hein, de le saisir dans la dynamique qui le constitue intérieurement, au lieu de le considérer extérieurement avec le regard d'intelligence qui ne voit dans cet objet qu'un assemblage complexe d'éléments. Hein, vous vous souvenez de ce que nous disions. Et vous vous souvenez aussi que l'exemple qui avait été donné par Bergson, c'est celui de la formation d'un œil. Saisir intuitivement cet organe, eh bien, c'est saisir au fond la nature en mouvement, c'est saisir l'œil comme l'acte de vision qui se matérialise en un organe. Au fond, qu'est-ce que c'est que l'œil ? C'est un acte de vision qui se matérialise en un organe. Et on doit appréhender ainsi l'œil avant de le considérer, avec le regard d'intelligence, comme une structure complexe qui se divise, comme dit Bergson, en une mosaïque de cellules. Alors, je cite Bergson, c'est un extrait de la fin du premier chapitre. Hein. Donc, je cite ici Bergson. Chapitre 1er, vous vous souvenez de ce qu'il avait dit, c'est un rappel. La nature n'a pas eu plus de peine à faire un œil que je n'en ai à lever la main. Hein, vous vous souvenez de cette formule. La nature n'a pas eu plus de peine à faire un œil que je n'en ai à lever la main. C'est-à-dire qu'ici, au fond, il y a une analogie, et personne n'est très coutumier du fait, il recours à beaucoup d'analogies. Donc, il effectue une analogie entre la nature, entre le mouvement de la nature, et puis le mouvement d'une main. Le mouvement d'une main. Et c'est grâce à cette analogie qu'il, au fond, cherche à nous donner les moyens de comprendre ce qu'il en est ici du mouvement de la nature. Ce mouvement est simple. L'adjectif est important. Simple, ça veut dire qu'il ne se divise pas. Il ne se décompose pas. Ainsi, l'acte créateur des formes vivantes, c'est-à-dire le mouvement de la nature, n'est rien de complexe. Il est simple, comme le mouvement de la main. Quand je saisis intuitivement le mouvement de ma main, comme dit Bergson, je sens ce mouvement du dedans. Vous voyez, je sens ce mouvement du dedans. C'est-à-dire, c'est un acte simple, indivisible. Pour l'intuition, l'intuition saisit cet acte comme un acte simple, qui ne se décompose pas. Et ce n'est qu'une fois le mouvement de la main accompli que je le considère avec le regard extérieur de l'intelligence et que je le décris comme une ligne géométrique, hein, comme une trajectoire sur laquelle se succède une série de positions dans l'espace. Vous voyez, c'est l'intelligence qui va géométriser le mouvement, mais une fois que celui-ci est accompli. Vous voyez ? Eh bien, justement, l'intelligence, on l'a suffisamment répété, n'est pas capable de saisir la simplicité du mouvement. Elle ne saisit pas le mouvement dans son indivisibilité. Elle le transforme en de l'espace. Elle le transforme en une trajectoire divisible, en un trajet composé de plusieurs étapes. Eh bien, il en est de même pour la formation d'un œil. Qu'est-ce qu'un œil ? Eh bien, l'œil, c'est d'abord essentiellement l'acte simple de la vision. L'acte simple de la vision, en tant qu'il se divise pour nous, c'est-à-dire pour notre intelligence, en une mosaïque de cellules, dit Bergson. Vous voyez ? L'acte simple de la vision, mais qui, bien sûr, pour nous qui l'appréhendons avec notre intelligence, qui le regardons de manière extérieure, eh bien, pour nous, effectivement, l'œil se divise en une mosaïque de cellules. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est l'acte simple de la vision. Et c'est, au fond, cet acte simple de la vision qui exprime, justement, le mouvement même de la nature qui forme l'organe. Donc, c'est notre intelligence qui introduit de la complexité. Là où il y a un acte simple de vision. C'est-à-dire, c'est pour l'intelligence, c'est pour notre intelligence que l'œil se divise en une mosaïque de cellules. Et ce sont les habitudes de notre intelligence qui vont nous conduire à vouloir expliquer l'organe à la manière d'une machine dont les pièces sont assemblées. Vous voyez ? Pour connaître donc vraiment l'œil, il faut remettre les choses à l'endroit. Il faut remettre les choses à l'endroit, il faut prendre le contre-pied de nos habitudes, il faut commencer par saisir l'acte simple avant d'étudier la structure complexe qui apparaît à notre intelligence. De la même manière que quand vous saisissez le mouvement d'une main, vous saisissez le mouvement du dedans, et puis ensuite, vous le décrivez géométriquement, hein, comme une trajectoire. Eh bien, c'est la même chose pour l'œil. Donc, voilà ce que je pense qu'il faut bien comprendre, et ça, je pense que maintenant, vous l'avez bien compris. Alors, cependant, l'analogie entre le dynamisme créateur de la nature et le mouvement de la main a des limites. D'ailleurs, comme toute analogie, elle a ses limites. C'est-à-dire qu'elle ne permet pas de saisir comment précisément le dynamisme de la nature produit en se matérialisant cet organe de l'œil qui nous apparaît comme une structure complexe. Vous voyez ? C'est-à-dire que bon, l'analogie permet de comprendre la simplicité de l'acte de vision, oui, ça d'accord, mais comment expliquez-vous que cet acte de vision puisse apparaître pour nous, pour notre intelligence, comme une structure complexe ? C'est ça qu'il faut maintenant parvenir à comprendre. Et pour le comprendre, eh bien, il faut corriger l'analogie. Et là, je vous renvoie donc à la page 1, premier texte, lignes 1 à 6. Je vais lire. Plus précisément, dit Bergson, nous comparions le procédé par lequel la nature construit un œil à l'acte simple par lequel nous levons la main. Mais nous avons supposé que la main ne rencontrait aucune résistance. C'est-à-dire que dans l'analogie qui avait été faite, c'est je bouge ma main, je remue ma main, mais dans l'espace, si vous voulez. Hein. Imaginons qu'au lieu de se mouvoir dans l'air, ma main est à traverser de la limaille de fer qui se comprime et résiste à mesure que j'avance. À un certain moment, ma main aura épuisé son effort. Et à ce moment précis, les grains de limaille se seront juxtaposés et coordonnés en une forme déterminée, celle même de la main qui s'arrête et d'une partie du bras. J'arrête là ma citation. Donc, la nature, la vie, c'est la même chose hein, ici. Hein. La nature agit et produit des formes vivantes comme le mouvement de ma main qui traverse de la limaille de fer et qui se trouve freinée par sa résistance et qui, justement, en rencontrant la résistance de la limaille de fer, va produire un certain assemblage des grains de limaille. Vous voyez, cette image, elle a l'intérêt d'essayer de nous faire bien comprendre comment, effectivement, se forme finalement un organe. Exactement comme l'assemblage de grains de limaille qui se forme quand ma main a traversé justement la limaille et puis a rencontré sa résistance. C'est pareil. Hein, voilà, vous comprenez, l'analogie ici est vraiment très, très éclairante. C'est-à-dire qu'en traversant cette matière, en rencontrant sa résistance, eh bien, la nature produit pareillement des formes vivantes. Et voilà comment on peut expliquer la structure de l'œil. Vous voyez ? La résistance de la matière, au fond, permet à la vie, à la nature, à l'élan vital, de produire des formes vivantes. Loin d'être le résultat d'un assemblage d'éléments réalisés selon un plan, eh bien, les formes vivantes sont le produit imprévisible de l'action de la vie qui rencontre l'obstacle de la matière. Parce que toutes les conceptions intellectualistes, c'est-à-dire que ce soit le mécanisme ou le finalisme, hein, se représentent l'organisme vivant comme une machine hein, qui résulte d'un assemblage d'éléments. Bon, et on n'en sort pas hein, de ce genre d'explication. Et ici, il faut inverser complètement les choses, puisqu'on part de l'acte simple hein, de la nature. Eh bien, c'est cet acte simple, c'est la vie, en quelque sorte, qui va, par sa rencontre à la matière, avec la matière, produire des formes, produire des configurations, produire des organes que nous allons effectivement saisir comme une structure complexe. Je cite chapitre 1. Alors là, par contre, j'ai oublié de le photocopier, ce passage, mais bon, il est important, mais vous allez saisir, c'est assez simple. Voilà ce qu'écrit Bergson. La vie est avant tout une tendance à agir sur la matière. C'est une tendance à agir sur la matière. C'est un courant, en quelque sorte, hein, qui traverse la matière, hein, qui agit sur elle. Le sens de cette action n'est sans doute pas prédéterminé. De là, l'imprévisible variété des formes que la vie, en évoluant, sème sur son chemin. C'est-à-dire que vous avez un courant vital, c'est ça l'élan vital, un courant vital qui traverse la matière, qui l'organise, mais d'une manière imprévisible. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'ici, rappelez-vous le titre de l'ouvrage, « Évolution créatrice ». Vous voyez ? Il y a dans le titre l'adjectif « créateur », ce qui est créé est par définition imprévisible. On ne peut pas le prévoir. En revanche, toutes les explications intellectualistes qui voudraient effectivement saisir le vivant comme une machine, bah effectivement, veulent toujours réduire, au fond, les êtres vivants à une composition d'éléments que l'on connaît déjà, en quelque sorte. Vous voyez ? Il n'y a plus d'imprévisibilité. Donc, dans le premier chapitre, il s'est agi surtout de prouver l'existence du mouvement de la vie que Bergson essaie de saisir en se servant de l'image de l'élan vital. Hein, c'est ce qu'il a fait dans le premier chapitre. Il s'est agi de montrer que cet élan est la cause unique et immanente qui produit tous les êtres vivants. Et ce qui prouve l'existence de cette cause unique et immanente, c'est, comme on l'a vu, la présence d'organes identiques chez des êtres vivants qui appartiennent à des lignes d'évolution divergentes. Vous vous souvenez de ce que nous disions sur les yeux que l'on rencontre chez des mollusques aussi bien que chez des vertébrés supérieurs comme l'être humain. Vous voyez, des organes identiques appartenant à des lignes d'évolution divergentes. Et c'est ça qui prouvait, selon Bergson, hein, ce courant unique, hein, cet élan vital qui se manifeste en toutes les productions d'êtres vivants. Avec le chapitre 2, il s'agira d'aller plus loin. Il faudra montrer donc comment cette cause unique, qu'est l'élan vital, s'est diversifiée en plusieurs effets au cours de l'évolution. Et l'objet de ce chapitre est annoncé à la fin du premier chapitre. C'est-à-dire que là, vous regardez le texte, ligne 25 jusqu'à la fin, en caractère gras, c'est là qu'il annonce ce que sera l'objet du deuxième chapitre, à la fin du premier chapitre. Je lis. Nous avons insisté sur ces similitudes de structure en général, sur l'exemple de l'œil en particulier, parce que nous devions définir notre attitude vis-à-vis du mécanisme, d'une part, et du finalisme de l'autre. Ce sont ces explications intellectualistes du vivant. Il nous reste maintenant à la décrire, avec plus de précision en elle-même. C'est ce que nous allons faire en envisageant les résultats divergents de l'évolution, non plus dans ce qu'ils présentent d'analogue, mais dans ce qu'ils ont de mutuellement complémentaire. Donc voilà l'objet du deuxième chapitre qui vous est annoncé. Alors, comme Bergson l'indique, dès le premier paragraphe du deuxième chapitre, toujours sur la page 1, eh bien, la démarche qui sera la sienne dans ce chapitre consistera à remonter des effets du mouvement évolutif jusqu'à ce mouvement lui-même dans sa source originelle, si vous voulez. Hein ? Donc, je reprends. On va remonter donc des effets du mouvement évolutif jusqu'à ce mouvement en tant qu'élan originel. Vous voyez ? C'est ça qu'il va faire. Et, bon, ben regardez, par exemple, c'est ce qu'il écrit, ligne 5, 6, hein, du premier paragraphe, là. C'est en partant d'eux, hein, c'est-à-dire, au fond, des effets du mouvement, hein, c'est en partant d'eux que nous devons remonter de degré en degré jusqu'au mouvement originel. Donc, le deuxième chapitre va consister en une sorte de lecture rétrospective de l'évolution qui permet de remonter à sa source, qui permet de remonter, au fond, à l'élan vital comme élan originel. Comme élan originel qui s'est divisé et puis qui a, en se divisant, produit diverses espèces. Et dans ce chapitre, Bergson recourt à une série de métaphores pour décrire justement le mouvement évolutif. Alors, vous aviez déjà l'image de l'élan vital qui a été utilisée à la fin du premier chapitre. Eh bien, il y aura maintenant deux autres images. L'image de l'obus qui explose, puis, une page plus loin, l'image de la gerbe qui se déploie en plusieurs directions, qui se déploie en directions divergentes. Vous voyez, ces deux images. Alors, ces images ne se contredisent pas, elles se complètent. Elles s'enrichissent mutuellement. Tandis que l'image de l'élan vital, accentue l'idée d'une continuité et d'une source commune à toutes les formes de vie. Vous voyez, c'est ça que souligne surtout l'image de l'élan vital, c'est qu'il y a quelque chose de commun à toutes les productions vivantes, hein, il y a une source commune qui se prolonge. Eh bien, l'image de l'obus et de la gerbe insiste plutôt sur les bifurcations. C'est un terme qu'emploie assez souvent Bergson. Ces images insistent sur les bifurcations, c'est-à-dire sur les changements de direction que la vie a prises au cours de son trajet. Vous voyez, elles et ces images permettent davantage, comme le dit d'ailleurs la fin du premier chapitre, elles permettent davantage d'envisager, je cite, les résultats divergents de l'évolution, les directions divergentes. Et les directions essentielles, ben, elles sont indiquées dans le titre du chapitre. Je vous les cite. Chapitre 2, les directions divergentes de l'évolution de la vie, torpeur, intelligence, instinct. Alors, comme l'explique le premier paragraphe, le mouvement évolutif ne décrit pas une trajectoire unique. Une trajectoire unique qui serait, dit Bergson, comparable à celle d'un boulet plein lancé par un canon. C'est-à-dire un boulet qui resterait indivisé. Un boulet plein, c'est un boulet qui resterait indivisé, qui n'éclaterait pas en fragments. Non, le mouvement évolutif ressemble plutôt à un obus. À un obus qui explose en plusieurs fragments, qui à leur tour éclate en d'autres fragments, et ainsi de suite. Au fond, comme un feu d'artifice. Comment on appelle ça, le dernier feu d'artifice? Je sais pas, il y a... Le bouquet. Voilà, le bouquet final, c'est ça. Exactement ça. Vous voyez, qu'il faut, de cette manière-là, qu'il faut, je pense, se représenter l'évolution. La nature de l'explosion dépend surtout de deux choses, comme l'explique Bergson. Ligne 7-10, hein. Bon, ligne 7-10, on va lire. Quand l'obus éclate, sa fragmentation particulière s'explique tout à la fois par la force explosive de la poudre qu'il renferme et par la résistance que le métal y oppose. Donc vous avez deux facteurs, hein. La fragmentation, hein, l'explosion, s'explique à la fois par la force explosive de la poudre qu'il renferme et par la résistance que le métal y oppose. Ainsi, pour la fragmentation de la vie en individus et en espèces, elle tient, croyons-nous, à deux séries de causes, la résistance que la vie éprouve de la part de la matière brute et la force explosive due à un équilibre instable de tendance que la vie porte en elle. Hein, c'est... Je répète, ligne 7 à 10 du chapitre 2. Donc, vous avez deux séries de causes. Et la première, la plus importante, je dirais, c'est la force explosive. C'est la force explosive de la vie elle-même qui porte en elle un équilibre instable de tendance. Hein, je cite ici Bergson. C'est de loin la cause la plus importante. Et nous allons bien sûr y revenir. Mais je voudrais dire d'abord que les métaphores justement de l'obus puis plus loin de la gerbe, nous invite à comprendre que la diversité des formes de vie, en espèces, en individus, ne découle pas fondamentalement de l'obstacle rencontré par la matière. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que si la vie est contrainte en quelque sorte de se fragmenter, c'est à cause de la résistance de la matière. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas la cause principale. C'est ce que veut expliquer ici Bergson. Mais cette division de la vie, elle se comprend de manière immanente dans le sein de l'élan vital lui-même. C'est-à-dire, au fond, ce qu'il faut saisir, on va progressivement le comprendre, c'est que la vie abrite en elle une diversité de tendances. Elle abrite en elle une diversité de tendances qui sont des tendances virtuelles, si vous voulez, et qui ne demandent que l'obstacle de la matière pour prendre forme, si vous voulez. Ce sont des tendances virtuelles que porte la vie en elle-même, que porte l'élan vital en lui-même, mais qui, au fond, ne prendront forme qu'à l'occasion de la résistance de la matière, si vous voulez. Donc, expliquer la fragmentation seulement par la matière, c'est insuffisant. L'essentiel, c'est surtout qu'il y a déjà, en quelque sorte, virtuellement, en l'élan vital, au fond, quelque chose qui ne demande qu'à s'extérioriser. Hein. Ces tendances multiples qui vont s'extérioriser. Alors, la métaphore de l'obus qui explose, contraint le lecteur à relativiser son point de vue d'observateur humain. C'est-à-dire que, ici, je cite le texte, c'est-à-dire que pour remonter de degré en degré jusqu'au mouvement originel, c'est-à-dire jusqu'à l'élan vital, hein, qui est l'élan originel, qui est à l'origine de tous les fragments qui ont été pulvérisés, eh bien, il faut partir de ce que nous percevons, dit Bergson. Et qu'est-ce que nous percevons ? Nous percevons ce qui est le plus près de nous. Hein. Ce que nous percevons, c'est ce qui est le plus près de nous, hein, comme dit Bergson. Regardez bien, ici, ligne 4-5. Nous ne percevons que ce qui est le plus près de nous, les mouvements éparpillés des éclats pulvérisés. Vous avez bien lu. Or, si je prends au sérieux l'image de l'obus qui explose, il me semble, à première vue, qu'il y a une contradiction entre cette image qui décrit quelque chose de foudroyant. Une explosion, c'est quelque chose d'instantané. C'est quelque chose qui ne dure pas. Donc, il y a apparemment une contradiction entre cette image et l'idée que nous nous faisons de l'évolution de la vie qui nous paraît très très lente, qui dure des siècles et des siècles, et puis même qui semble même presque éternelle. Et effectivement, si on la rapporte à la courte durée d'une vie humaine, l'évolution paraît se développer avec une lenteur extrême. Et ici, il faut bien mesurer que, là encore, il faut mesurer les limites de l'analogie que nous faisions entre l'évolution de la vie et la durée de notre conscience. C'est vrai que c'est, souvenez-vous, à partir de l'expérience intime de la durée de notre conscience que nous pouvons concevoir la durée qui est constitutive de l'évolution de la vie. Hein, vous vous souvenez de ça ? Bon, sauf que s'il est vrai que la vie est une proche parente de la conscience, elle évolue au sein d'une durée qui est infiniment plus vaste, infiniment plus ample que celle de notre propre durée. Et ici, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre la durée d'une conscience mortelle comme la nôtre et puis la durée de la vie créatrice qui ne connaît pas la mort. La vraie philosophie, dépasse le cadre étroit de notre perception. Elle consiste à voir en la vie, justement, une explosion foudroyante et rapide qui, pour nous, ne peut apparaître que comme fort longue. Et ainsi, si vous lisez la suite du texte, de l'amibe, qui est le premier être vivant, hein, de l'amibe jusqu'à l'homme, eh bien, il faut concevoir que la vie s'était lancée à pas de géant. Alors, ça nous paraît très long, mais non, c'est explosif, c'est rapide. C'est-à-dire que dès que la vie a commencé, elle a cru, elle s'est développée d'une façon absolument foudroyante. Et voyez bien que l'analogie entre la vie, entre l'évolution de la vie et la durée de notre conscience, bien sûr, a ses limites. Mais on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer si on veut pouvoir saisir quelque chose de l'évolution. C'est pour ça que Bergson, si vous voulez, dans son texte, assume l'utilisation d'un discours anthropomorphique. Évidemment, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Mais il vous parle de la vie comme d'une personne, si vous regardez bien le texte. Et vous allez voir que, on va citer, la vie, elle s'affirme d'abord face à l'obstacle que lui oppose la matière brute. Regardez bien, ligne 11. Ligne 11 à... Je ne sais plus à 15. Oui, je ne sais plus à... Oui, à 14. Ligne 11 à 14. La résistance de la matière brute est l'obstacle qu'il fallut tourner d'abord. La vie semble y avoir réussi à force d'humilité. Hein ? Comme une personne, qui a des qualités psychologiques. Elle y a... Donc, elle semble y avoir réussi à force d'humilité, en se faisant très petite et très insinuante, biaisant avec les forces physiques et chimiques, consentant même à faire avec elle une partie du chemin, comme l'aiguille de la voie ferrée, quand elle adopte pendant quelques instants la direction du rail dont elle veut se détacher. Toujours des images, vous voyez, qui permettent d'essayer de saisir, hein, ce mouvement de la vie. Alors, cette image nous permet d'éviter un contresens. La vie, ce n'est pas une force matérielle. Ce n'est pas une force matérielle, si on a bien compris. Parce que si c'était une force matérielle, elle s'opposerait à d'autres forces, qui sont des forces physiques, les forces physiques et chimiques de la matière. Et bon... Il y aura un rapport de force et je dirais que il n'y aurait rien de créé. Il n'y aurait pas de création. Vous voyez ? Non, il faut bien comprendre que l'élan vital est quelque chose d'immatériel qui va s'insérer dans de la matière. Vous voyez ? Donc, la vie ne s'oppose pas frontalement aux forces physiques, mais si vous regardez bien les termes employés par Bergson, elle ruse avec ses forces en se faisant très petite et très insinuante. C'est-à-dire qu'elle va se greffer sur les forces physiques pour les entraîner peu à peu dans une autre direction. Hein, c'est l'image de l'aiguillage, là, de l'aiguille de la voie ferrée. Hein. Bon. Donc, c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que la vie, au fond, elle va en quelque sorte s'insérer, s'immiscer dans les forces matérielles pour en changer en quelque sorte le cours. Hein. Vous voyez, c'est ça l'idée. Hein. Et vous avez, plus loin, alors là je ne vous ai pas photocopié ces textes, c'est plus loin dans le chapitre, d'autres extraits qui me paraissent intéressants, puisque les choses vont se préciser au fur et à mesure. C'est-à-dire, ce qui est bien avec Bergson, c'est qu'on a, si on n'a pas bien compris un passage, plus loin, plus tard, il revient, il reprécise. Hein, c'est ça qui est bien. Alors, page 116, par exemple, voilà ce qu'il écrit. Il y a au fond de la vie un effort pour greffer sur la nécessité des forces physiques la plus grande somme possible d'indétermination. Tout se passera comme si l'effort visait simplement à utiliser de son mieux une énergie préexistante qu'il trouve à sa disposition. Voilà, et c'est ce qui me paraît important dans ce passage, c'est le terme d'indétermination. C'est-à-dire que s'il n'y avait que des forces physiques, s'il n'y avait que des forces chimiques, tout serait déterminé et prévisible. Hein, selon des lois qui sont établies par les sciences. Hein. Bon, il n'y aurait que de la nécessité. Or, qu'est-ce que c'est que la vie ? C'était cette espèce d'élan vital, d'élan créateur, qui va introduire de l'indétermination dans la matière. Et voilà. C'est-à-dire que, donc, de l'indétermination, au fond, de l'imprévisible. De l'imprévisible. Tout n'est pas soumis à une nécessité rigoureuse, sinon il n'y aurait pas de vie. La vie, justement, c'est ce qui perturbe. Vous voyez ? Plus loin, page 127, toujours dans le chapitre 2. Le rôle de la vie est d'insérer de l'indétermination dans la matière. Indéterminé, je veux dire imprévisible, sont les formes qu'elle crée au fur et à mesure de son évolution. Vous voyez ? Donc, là, il ne faut pas vous imaginer la vie comme une sorte d'énergie, de force qui va en quelque sorte discipliner, vaincre, vous voyez, de manière frontale les forces physiques. Non, parce que c'est, à ce moment-là, ce serait de la physique, c'est tout. Hein. Non, c'est quelque chose, justement, d'immatériel, mais qui vient, en quelque sorte, changer le cours de la matière et l'orienter de plus en plus, en un certain sens. Alors, en assumant son discours anthropomorphique, eh bien, Bergson nous montre la vie débutant d'abord par des formes animées d'une simplicité extrême, dit-il, d'une simplicité extrême. Alors, ligne, regardez page 2, passez à la page 2, ligne 17-18, ligne 17-18, regardez, les formes animées qui parurent d'abord furent donc d'une simplicité extrême, c'était sans doute de petites masses de protoplasme à peine différenciées, comparables du dehors aux amibes que nous observons aujourd'hui, mais avec en plus la formidable poussée intérieure qui devait les hausser jusqu'aux formes supérieures de la vie. Ben, c'est ça, la poussée intérieure, c'est ça l'élan vital, hein, si vous voulez. Donc, une formidable poussée intérieure. Bon, et c'est en effet de cette poussée intérieure que la vie émerge, hein, en s'élevant à des formes toujours plus hautes et plus complexes, vers des organismes toujours plus grands. Vous voyez, il y a création. Hein. Et comme dans le sens de la grandeur, probablement, la vie devait rencontrer des limites, hein, je cite Bergson, « la matière organisée a une limite d'expansion vite atteinte. Ben, » je sais pas moi, au départ, vous avez des lézards, après vous avez des diplodocus. Vous voyez ? Eh bien, comme très vite, la vie rencontre des limites, hein, en termes de grandeur, eh bien, comment procède-t-elle ? Elle contourne l'obstacle. Vous voyez, elle biaise toujours. Elle contourne l'obstacle en se dédoublant, en se divisant. Et là, vous avez une formule très importante, ligne 22-23. Ligne 22-23. Elle se dédouble plutôt que de croître au-delà d'un certain point. Vous voyez, elle se dédouble plutôt que de croître au-delà d'un certain point. Alors là, on va toucher quelque chose d'important. C'est-à-dire, au fond, ce qu'il faut bien saisir, c'est que le mouvement évolutif, alors mouvement évolutif, la vie, hein, c'est synonyme, hein, le mouvement évolutif procède par une limitation. C'est-à-dire qu'il doit se diviser pour croître davantage. Il doit se dissocier pour croître davantage. Il a besoin de se diviser pour grandir. Et la cause réelle de cette division, comme l'indique Bergson, ben ce n'est pas l'obstacle extérieur de la matière, sur laquelle, au fond, l'élan vital vient buter. Hein. Non, encore une fois, la cause profonde, la cause principale de cette division, elle se trouve dans la vie elle-même. Elle se trouve dans l'élan vital lui-même. il y a une limite intérieure à l'élan. Ce qui fait que Bergson va dire dans le chapitre 3 de l'évolution créatrice que l'élan vital est fini. Alors, l'autre jour, Nicolas Bouchard nous a parlé de la... On n'avait pas encore vu. Il parlait du fait que l'élan vital était fini. Ben voilà, là, on va comprendre ce que ça veut dire. Hein, et je cite un petit extrait du chapitre 3, page 254, hein, pour ceux qui veulent retrouver exactement l'endroit où ça se trouve. Page 254, chapitre 3, voilà ce qu'écrit Bergson. L'élan vital est fini et il a été donné une fois pour toutes. Il ne peut, traversant la matière, obtenir tout d'un coup. Il ne peut pas surmonter tous les obstacles. Le mouvement qu'il exprime est tantôt dévié, tantôt divisé, tantôt contrarié. Et l'évolution du monde organisé n'est que le déroulement de cette lutte. Alors, essayons de bien comprendre. Justement, c'est parce que l'élan vital est fini, parce qu'il est limité intérieurement. C'est parce qu'il est limité intérieurement que la vie, que l'élan vital, a son sort lié à celui de la matière. Alors, si l'élan vital était illimité, il serait une pure activité créatrice qui se passerait de la matière. Il serait une pure activité créatrice. Donc la vie, si vous voulez, pour le dire autrement, la vie serait conscience et liberté absolue. Elle serait conscience et liberté absolue. Or, ce n'est pas le cas. Vous voyez, la vie ne croît, ne se développe qu'en rencontrant des limites. Vous voyez ? D'une certaine façon, elle a besoin de l'obstacle de la matière pour croître. Vous voyez ? Je veux dire que la limitation n'est pas quelque chose de négatif, c'est la condition au contraire de son déploiement, hein, de son évolution. Vous voyez ? Et comme l'écrit Bergson ici, alors c'est ligne 27, hein, il dit, alors, formule très très importante, la vie est tendance. Alors on va peut-être lire le passage entier, hein. Ligne 27, 29. Je lis le passage, il est en caractère gras. Mais les causes vraies et profondes de division étaient celles que la vie portait en elle, car la vie est tendance, et l'essence d'une tendance est de se développer en forme de gerbe, créant par le seul fait de sa croissance des directions divergentes entre lesquelles se partagera son élan. Vous voyez ce passage ? Bon. Alors, le mot tendance, très important le mot tendance. Parce qu'au fond, le propre d'une tendance, c'est de ne jamais pouvoir s'accomplir jusqu'au bout. Si l'élan vital était illimité, on ne parlerait pas de la vie comme d'une tendance. La vie est une tendance parce qu'elle se heurte toujours à quelque chose, à un obstacle, à une limite. Vous voyez ? Elle ne va jamais jusqu'au bout. Et cette incapacité, vous voyez, ne résulte pas seulement de l'obstacle de la matière, cette incapacité est due avant tout à la finitude de l'élan. Et voilà pourquoi la vie est une tendance qui se heurte toujours à une matière. Voilà pourquoi elle se développe en forme de gerbe, créant par le seul fait de sa croissance, je lis le texte, des directions divergentes entre lesquelles se partagera son élan. C'est-à-dire que c'est parce qu'elle est limitée intérieurement qu'elle va, pour pouvoir croître, se diviser. Et qu'en se divisant, eh bien, elle va, rendre actuelles les tendances virtuelles qu'elle porte en elle. Vous voyez ? Alors, on pourrait dire de la vie qu'elle est condamnée à choisir. Un être fini est condamné à choisir. Il ne peut pas vouloir tout à la fois. Hein, il faut vouloir, on ne peut vouloir qu'une seule chose, à l'exclusion des autres. Eh bien, si l'élan vital est fini, d'une certaine façon, ça signifie que la vie est condamnée à choisir. à se limiter dans une direction ou dans quelques directions. Vous voyez ? De manière analogue à notre conscience. De manière analogue à notre conscience. Mais attention, vous voyez, la vie choisit comme nous, nous choisissons une voie plutôt qu'une autre. Mais là encore, attention, l'analogie a des limites. Et c'est ce que va montrer Bergson. Il faut mesurer ici que cette analogie a des limites, que nos choix à nous sont des sacrifices. La vie ne sacrifie rien. C'est ce que nous allons comprendre en lisant justement le paragraphe qui vient ensuite. C'est-à-dire que, comme va le montrer Bergson, il en est du mouvement de l'évolution, c'est-à-dire de la vie en tant que tendance, comme, dit Bergson, comme de cette tendance spéciale que nous appelons notre caractère. C'est ligne 30, hein ? Ligne 30, vous voyez, c'est ce que nous observons sur nous-mêmes dans l'évolution de cette tendance spéciale que nous appelons notre caractère. Alors, qu'en est-il de notre caractère ? Essayons de comprendre d'abord ce qu'il en est de notre caractère, ce que nous appelons notre caractère. Eh bien, comme c'est facile à comprendre, comme l'explique Bergson, il est le résultat d'un choix qui s'est fait progressivement en grandissant. Au départ, quand nous étions enfants, nous étions virtuellement plusieurs personnes. En fait, enfant, quand j'étais enfant, j'étais potentiellement footballeur, pompier, professeur de philo, peut-être, footballeur surtout. Mais bon, voilà. Bon, et puis en grandissant, voilà, c'était Mbappé. Et puis en grandissant, ben, nous sommes condamnés à faire un choix, à sacrifier plusieurs tendances pour n'en réaliser qu'une seule. Alors, il y a un très joli passage sur l'enfance. Regardez, pourquoi nous admirons les enfants ? Pourquoi nous aimons les enfants ? Pourquoi nous sommes émerveillés devant les enfants ? Regardez l'explication que vous en donne ici Bergson. Ligne 301. Non, 31, pardon. Chacun de nous, en jetant un coup d'œil rétrospectif sur son histoire, constatera que sa personnalité d'enfant, quoique indivisible, réunissait en elle des personnes diverses qui pouvaient rester fondues ensemble parce qu'elles étaient à l'état naissant. Cette indécision pleine de promesses est même un des plus grands charmes de l'enfance. Un des plus grands charmes de l'enfance, c'est le fait que l'enfant est une promesse. Il porte plusieurs vies possibles. Parce que nous sommes foutus. Nous sommes bien installés dans une trajectoire. Et puis, bon, tout ce que nous aurions pu être et que nous n'avons pas pu être. Un vrai désastre. Et ici, vous voyez, alors je poursuis, par exemple, ligne 35, nous choisissons en réalité sans cesse. Et sans cesse aussi, nous abandonnons beaucoup de choses. La route que nous parcourons dans le temps est jonchée des débris de tout ce que nous commencions d'être, de tout ce que nous aurions pu devenir. Vous voyez ? Voilà, c'est la vie humaine. C'est la vie humaine, pourquoi elle est condamnée à se limiter ? Parce qu'elle est mortelle, surtout. Il faut bien une vie, il faut bien qu'à un moment donné elle se spécialise, en fait elle ne fasse dominer qu'une tendance, hein. Bon, et puis le reste, eh bien, est sacrifié. Mais ce qui vaut pour une vie humaine condamnée à périr ne vaut pas pour la vie comme mouvement évolutif. C'est ça que veut montrer Bergson, c'est que la vie, elle ne choisit pas comme nous. La vie ne sacrifie rien. Elle ne sacrifie aucune tendance. Comme l'explique Bergson, elle conserve et elle maintient dans l'être les diverses tendances en lesquelles elle s'est diversifiée. De telle sorte, par exemple, que les arbres et les hommes habitent encore dans le même univers. Oh, il y aura peut-être bien plus d'arbres, bien après ce sera à nous de périr, mais voilà, si vous voulez, il se trouve que La vie, elle s'est diversifiée en plusieurs espèces. Elle n'a rien sacrifié. Elle ne sacrifie rien. Je lis ligne 37-39. Ligne 37-39. Mais la nature, qui dispose d'un nombre incalculable de vies, n'est point astreinte à de pareils sacrifices. Elle conserve les diverses tendances qui ont bifurqué en grandissant. Elle crée avec elle des séries divergentes d'espèces qui évolueront séparément. Alors, vous me direz, oui, mais attention, il y a tout de même des espèces qui disparaissent. Oui, mais attention, il ne faut pas confondre. Les tendances ne disparaissent pas, mais ça ne veut pas dire que les espèces en lesquelles elles se matérialisent se conservent. Vous voyez, les tendances, les directions, hein, de la vie, elles demeurent, elles se conservent. Elles ne sont jamais sacrifiées, elles persistent. Elles persistent, elles se concrétisent dans des formes, dans des espèces variées, dont certaines disparaissent. Mais il ne faut pas confondre ici la tendance avec l'espèce dans laquelle elle se matérialise. Vous voyez ? Bon, il y a des espèces qui ont disparu, les diplodocus. Et peut-être les êtres humains, ces quatre. Alors, vous voyez, c'est pas ça. Alors, pour justement éviter cette confusion, et bien comprendre encore, essayer de bien saisir le mouvement d'évolution, Bergson recourt à une deuxième analogie pour comprendre justement comment s'effectue le mouvement d'évolution. Et l'évolution de la vie, elle est comparable à l'œuvre d'un romancier, dit Bergson. Quand vous écrivez un premier roman, bah, vous êtes obligé de renoncer à une foule de choses au fur et à mesure que vous avancez dans sa rédaction. Ah, vous aviez imaginé tel... Il y a une logique de l'œuvre qui fait que vous ne pouvez pas tout mettre. Il faut faire des choix. Vous voyez ? Mais seulement, ces choses auxquelles il a dû renoncer, ces personnages qu'il aurait pu... faire paraître dans son roman, bien sûr, il y a renoncé, mais il peut les reprendre dans un autre roman. Vous voyez ? Eh bien, c'est un peu ça, c'est ça l'évolution de la vie. Des tendances qui n'ont pas pu se matérialiser, elles peuvent se matérialiser d'une autre manière à un autre moment. Donc, ligne 45 à 48. Ligne 45 à 48. Ainsi, pour l'évolution de la vie, les bifurcations au cours du trajet ont été nombreuses, mais il y a eu beaucoup d'impasses à côté de deux ou trois grandes routes, et de ces routes elles-mêmes, une seule, celle qui monte le long des vertébrés jusqu'à l'homme, a été assez large pour laisser passer librement le grand souffle de la vie. Alors évidemment, quand on lit progressivement le texte, le souffle de la vie, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors on comprend, c'est vrai, on comprend mieux en lisant la suite. C'est vrai, ça, le problème c'est ça, c'est qu'il faut accepter de ne pas comprendre par moment quand on lit un texte. Hein. Bon, en fausse de la vie, c'est-à-dire en fait, on va comprendre que la vie, dans sa quintessence, elle est essentiellement conscience. Et c'est, je dirais, cette expression justement du mouvement créateur de la vie, c'est la liberté, c'est la conscience dont l'homme est porteur dans ses formes, dans ses manifestations les plus hautes, si vous voulez. C'est ça l'idée. Hein ? Alors, mais vous voyez, il faut admettre qu'on ne puisse pas bien comprendre ce passage hein, quand on lit la première fois. Alors, il y a impasse, parce qu'il y a des impasses, dit Bergson. Il y a impasse quand des obstacles ne peuvent pas être surmontés. C'est le cas quand une espèce disparaît. Mais la disparition de certaines espèces ne signifie aucun affaiblissement de la vie. Aucun affaiblissement. Au contraire, la vie croît et se développe par des bifurcations. C'est sa manière de croître, c'est de bifurquer. C'est de se diviser. Et c'est pour ça qu'on peut la concevoir par analogie, évidemment, avec la durée de notre conscience qui ne cesse de se diviser en progressant. Eh bien, vous voyez ici que les obstacles, encore une fois, ne sont pas un frein à son action, ils sont au contraire la condition de son développement. Développement qui selon l'image de Bergson, s'effectue en forme de gerbe. Hein ? C'est-à-dire que l'effort, c'est l'élan vital. Hein ? L'effort, c'est l'élan vital. L'effort, en étant détourné, devient encore plus intense. Et il gagne en intensité. Seulement, il ne suit pas une route unique. Et comme l'explique Bergson, je passe un peu sur quelques passages, la vie se développe surtout sur deux ou trois grandes routes, et parmi lesquelles il y a la route qui mène à l'homme, celle sur laquelle l'élan vital s'exprime de la manière la plus intense. C'est pour ça qu'il parle du grand souffle de la vie. Vous voyez ? Mais, hein ? Alors là, effectivement, Bergson est un penseur spiritualiste. Hein, vous voyez ? Et qu'au fond, l'élan vital se désincarne, en quelque sorte, dans sa manifestation la plus haute, hein, en liberté, en conscience. Bon. Quoi qu'il en soit, étudier la vie, ce sera analyser les tendances qui donnent naissance à des espèces. Vous voyez ? Étudier la vie, c'est, puisque la vie est porteuse de tendances, eh bien, ces tendances s'expriment, hein, se matérialisent en espèces. Eh bien, étudier la vie, étudier le mouvement d'évolution, ce sera analyser donc les tendances qui donnent naissance à des espèces. Et ce sera aussi comprendre le phénomène d'adaptation, si cher à Darwin. Vous voyez ? Alors, lisez, par exemple, ligne 49-51. L'étude du mouvement, c'est toujours page 2, hein, l'étude du mouvement évolutif consistera donc à démêler un certain nombre de directions divergentes, à apprécier l'importance de ce qui s'est passé sur chacune d'elles, en un mot, à déterminer la nature des tendances dissociées et à en faire le dosage. Voilà. À le plan d'étude. Mais alors, ici, il y a des, là aussi, c'est pareil. Le mot dosage, on va comprendre après. Pourquoi il parle de cette façon. Mais je préfère laisser de côté pour l'instant. Ce que va faire ici Bergson, tout de suite, là, maintenant, c'est qu'il va montrer que l'évolution, c'est autre chose que ce qu'en dit Darwin. C'est autre chose qu'une simple adaptation aux circonstances du milieu, parce que c'est comme ça que Darwin explique l'évolution, par le hasard, hein, adaptation aux circonstances du milieu. Ça, c'est la thèse mécaniste de Darwin. Hein, ce sont les circonstances qui déterminent, au fond, le fait qu'une espèce disparaisse, vous voyez, par exemple. Et donc, elle est autre chose qu'une simple adaptation aux circonstances du milieu, et elle est également autre chose que la réalisation d'un plan d'ensemble, comme le soutient la thèse finaliste. Vous voyez, là encore, on retrouve ces thèses-là, dont Bergson se distingue à chaque fois, et il précise à chaque fois sa position en montrant la différence avec ces deux thèses. Il commence d'abord par la critique de la conception darwinienne de l'adaptation. Alors, la thèse de Darwin ramène tout à la seule considération des forces extérieures auxquelles doit faire face une espèce. Et si elle n'y fait pas face, elle disparaît. Alors, ici, tout de suite, une chose à préciser, personne ne conteste pas qu'il y ait adaptation. Il ne récuse pas l'idée d'adaptation, pas du tout. Le fait est absolument indiscutable. Je lis page 2, ligne 56-58, que ce soit bien clair, hein, que la condition nécessaire d'évolution soit d'adaptation au milieu, nous ne le contestons aucunement. Il est trop évident qu'une espèce disparaît quand elle ne se plie pas aux conditions d'existence qui lui sont faites. Donc, il n'y a pas à nier l'idée d'adaptation, c'est clair. Mais, comme l'explique Bergson, expliquer l'évolution par les seules circonstances extérieures, bah, ce n'est pas la comprendre. Et la notion d'adaptation, pour Bergson, n'explique pas grand-chose, si l'on y regarde bien. Elle rend, alors cette notion d'adaptation rencontre des sinuettes, elle rencontre des sinuosités du mouvement évolutif, mais elle ne jette aucune lumière sur les directions générales du mouvement, et elle explique encore moins le mouvement lui-même. Regardez ligne 68. La vérité, dit Bergson, c'est en bas. La vérité est que l'adaptation explique les sinuosités du mouvement évolutif, mais non pas les directions générales du mouvement, encore moins le mouvement lui-même. Et alors, là encore, c'est ça qui est assez agréable avec Bergson, c'est qu'il y a toujours une image pour essayer de nous faire comprendre ce qu'il dit. C'est l'image de la route qui vient après, je la lis. La route qui mène à la ville est bien obligée de monter les côtes et de descendre les pentes. Elle s'adapte aux accidents du terrain. Mais les accidents de terrain ne sont pas cause de la route et ne lui ont pas non plus imprimé sa direction. Hein, c'est une image très simple et très claire. C'est-à-dire qu'au fond, l'adaptation permet de parler des obstacles, elle permet de saisir les empêchements. Ce qui fait que je vais être en retard quand je suis sur une route rectiligne. Hein, bon, il y a des retards, c'est dû aux accidents, enfin les accidents au sens, au sens où nous l'entendons aujourd'hui parfois, mais les accidents, c'est tout ce qui fait obstacle, si vous voulez. Hein. Mais au fond, l'adaptation parle des obstacles, mais elle n'explique pas le fait que la route existe. Elle n'explique pas la route. Elle explique seulement ses sinuosités. Alors, ça, c'est une chose. Hein. Ça, c'est simple à comprendre. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire ici que Bergson va nier l'idée d'adaptation. Hein. Pas du tout. Par ailleurs, le mouvement d'évolution s'explique encore moins par un plan qui serait donné à l'avance et qui se réaliserait au fur et à mesure. Puisque, je le rappelle, le mouvement de l'évolution est créateur, donc il est imprévisible, comme d'ailleurs tout ce qui dure. Hein. Et regardez page 3, prenez la ligne 86, page 3. Si la vie réalise un plan, elle devra manifester une harmonie plus haute à mesure qu'elle avancera plus loin. Telle la maison dessine de mieux en mieux l'idée de l'architecte, tandis que les pierres montent sur les pierres. On voit de plus en plus, on voit la maison prendre forme au fur et à mesure, hein, si vous voulez. Non, l'évolution, elle se produit pas comme ça selon un plan, hein, on sait ça. Hein. Elle est création d'imprévisibles nouveautés. Bon. Donc, loin d'être un assemblage qui se fait pièce par pièce, l'évolution progresse, et elle progresse non pas par assemblage, elle progresse en se divisant. La progression se fait en se divisant. Hein ? Et comme le montre aussi Bergson, ce progrès se manifeste dans une désharmonie entre les espèces, qui va en s'accentuant. C'est-à-dire que plus la vie progresse, plus elle se fragmente, plus elle se divise, et plus les espèces qu'elle produit, eh bien, finalement, moins elles sont harmonieuses entre elles, plus elles sont en désharmonie entre elles. Hein, elles peuvent s'opposer entre elles. Et vous voyez que si unité il y a dans l'évolution, elle est seulement dans l'élan vital. La seule unité qui soit, c'est celle de l'élan vital qui est producteur. Hein. Et si harmonie il y a, elle n'est pas en avant, dit Bergson, elle est en arrière. Hein. Elle est en arrière. Allez, regardez les lignes 88-90. Ligne 88-90. Hein. Je lis. Au contraire, si l'unité de la vie est tout entière dans l'élan qui la pousse sur la route du temps, l'harmonie n'est pas en avant, mais en arrière. L'unité vient d'une vis atergo, elle est donnée au début comme une impulsion, elle n'est pas posée au bout d'un... Elle n'est pas posée au bout comme un attrait. Bon, et on revient toujours sur cette idée. Hein. Donc, et d'ailleurs, comme le dit Bergson, il n'y a pas seulement progrès, il y a certaines espèces régressent, voire disparaissent, et il en résulte, dit-il, un désordre croissant. Toujours est-il que ce progrès n'est pas une marche continue qui va dans une unique direction, et si on entend par progrès une marche continue, ce progrès ne s'accomplit que sur deux ou trois grandes lignes d'évolution, dit Bergson, où se dessinent des formes de plus en plus complexes et de plus en plus hautes. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a progrès seulement sur quelques lignes, sur quelques lignes d'évolution, seulement. Et le spectacle de ce que Bergson appelle cette désharmonie, ce spectacle est tel qu'il finit par vaincre les convictions initiales du philosophe finaliste, celui qui s'attendrait à ce que l'évolution réalise un plan. Eh bien, au contact des faits, hein, à l'observation des faits, il est cruellement déçu. Hein. Ce philosophe qui part de l'idée que l'évolution réalise un plan d'ensemble, eh bien, il va de déception en déception. Le jour où il aborde l'examen des faits. Et alors, comme dit Bergson, eh bien, il peut arriver de déception en déception à adopter la thèse exactement inverse. C'est-à-dire que la thèse exactement inverse, c'est la thèse selon laquelle tout est accidentel. Il n'y a que du hasard, vous voyez ? Au fond, ce qui est toujours assez amusant avec Bergson, c'est que il suggère toujours que dans les théories qui, comme celle de Darwin, explique tout en termes de hasard, et il y a une sorte de finalisme déçu. C'est-à-dire que les théoriciens qui affirment le hasard dans la production de l'évolution, ce sont des gens qui ont été effectivement finalistes, mais qui ont été déçus, en quelque sorte. Donc ils finissent par dire exactement l'inverse. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une sorte de... ils renvoient constamment dos à dos ces doctrines, en quelque sorte. Hein. Bon. En tout cas, ce n'est pas la conclusion de Bergson, qui, évidemment, contre ces doctrines, caractérise l'évolution. Alors, je cite l'expression, c'est ligne 114, 115. Il caractérise l'évolution de la vie comme une création qui se poursuit sans fin en vertu d'un mouvement initial. Et une création dont la richesse infinie, ligne 116, 117, dont la richesse infinie est supérieure à ce qu'aucune intelligence pourrait rêver. Bon, ça c'est une idée qu'on a 100 fois déjà ici rencontrée. Alors, maintenant que cela est dit, personne ne se propose d'examiner les grandes lignes d'évolution qu'il a évoquées, car, dit-il, elles seules nous importent, et parmi elles, il y a surtout la voie qui conduit à l'homme. Hein, la voie qui conduit à l'homme. Et on va voir, en procédant par une lecture globale de l'évolution, une lecture rétrospective de l'évolution, qui permettra de comprendre comment l'élan vital s'est développé en plusieurs directions et a engendré des séries divergentes d'espèces, eh bien, en procédant de cette manière, le deuxième chapitre sera en mesure de situer l'homme par rapport à l'ensemble du règne animal et par rapport aussi au règne végétal. Vous voyez, c'est au fond, ce qui intéresse personne, c'est de comprendre comment l'homme est apparu, hein, selon quel processus évolutif il est apparu. Hein. Qu'est-ce qui a donné naissance à l'homme? Comment il est né? De quoi il est né? Bon. Alors évidemment, là, pas l'idée d'une création au sens biblique. Hein. Bon. Alors, en utilisant les termes de règne animal, vous voyez, il utilise ces termes-là, règne animal, règne végétal. On pourrait penser que Bergson va nous dire que le végétal et l'animal sont des genres bien distincts, qui se caractérisent par des propriétés essentielles qui ne sont pas communes aux autres genres. Vous voyez ? On pourrait penser qu'il va concevoir, je répète, des genres bien distincts, en parlant ainsi. Or, ce n'est pas du tout le cas, comme nous allons le voir. Et c'est tout de même assez curieux qu'il parle de règne animal et de règne végétal. En réalité, il y a une allusion un peu provocatrice à la philosophie d'Aristote. Et je vais vous expliquer pourquoi. Évidemment, il s'adresse à des lecteurs qui connaissent Aristote, qui ont lu le traité de l'âme d'Aristote, grand biologiste Aristote, le premier grand biologiste Aristote. Et donc, effectivement, en reprenant ces termes, il les utilise de façon assez provocatrice, puisqu'il va montrer exactement qu'il n'y a pas exactement un règne animal, un règne végétal, comme si c'était, au fond, des domaines distincts. Donc, il se réfère allusivement au philosophe Aristote. Et ici, je vais parler deux secondes d'Aristote. Ce n'est pas compliqué, c'est le minimum qu'il faut savoir si on veut comprendre toute la différence qui existe entre ce que dit Bergson et puis ce que dit Aristote et ce que disent les théories de l'évolution qui s'inspirent d'Aristote. Donc Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ, c'est ce philosophe qui écrit un traité de l'âme. Alors attention, la notion d'âme ici n'a pas le sens spiritualiste, chrétien, qu'elle aura plus tard. L'âme ici, c'est le principe vital. C'est un principe d'animation. Vous voyez ? Et dans son traité, il distingue le végétal, l'animal et le rationnel comme trois règnes distincts, comme trois genres, qui sont hiérarchiquement ordonnés. Ils sont distincts et hiérarchiquement ordonnés. C'est-à-dire le plus bas, le règne inférieur, c'est le végétal. Ensuite, vous avez l'animal. Et puis au plus haut, au sommet, vous avez le rationnel, l'intellectif. Et comment Aristote explique-t-il la différence entre ces genres, entre ces règnes ? Par la présence dans l'être vivant de trois types d'âmes, trois types de principes d'animation. Je répète, l'âme, c'est un principe d'animation. Alors, vous avez d'abord, pour expliquer les plantes, vous avez l'âme végétative. C'est la faculté qui est propre, au fond, à ces êtres vivants qui sont les végétaux. L'âme végétative, ce qui fait que ces êtres sont vivants. Et alors, qu'est-ce que détermine l'âme végétative? Des phénomènes comme la respiration, la nutrition, enfin un certain nombre de phénomènes qu'il décrit, qu'il observe rigoureusement, effectivement, dans son traité. Et puis, ensuite, vous avez l'âme sensorimotrice qui est présente seulement chez les animaux, pas chez les plantes. Mais attention, les animaux, ils n'ont pas que l'âme sensorimotrice, ils ont aussi l'âme végétative. Vous voyez ? Ils ont en plus l'âme sensorimotrice. Et qu'est-ce qu'explique l'âme sensorimotrice ? Elle explique qu'ils aient des appétits et qu'ils aient une motricité. Les animaux bougent, ils sont en mouvement. Et puis, ensuite, troisième degré, degré supérieur, vous avez l'âme intellective. Comme on l'a compris, c'est l'âme qui permet au fond de raisonner, de réfléchir, de délibérer. Et elle est présente chez l'homme et chez les dieux. Et chez les dieux. Attention, il n'y a pas que l'homme, Et donc, cette âme, elle n'est pas présente chez la plante, elle n'est pas présente chez l'animal, elle n'est présente que dans cet être qu'est l'homme, qui est un animal rationnel. L'homme est un animal rationnel. C'est un animal qui a en plus la raison. Vous voyez ? Donc, c'est par degré, vous voyez ? Par degré qu'on va de l'inférieur au supérieur, et le supérieur enveloppe l'inférieur. C'est-à-dire que le règne animal enveloppe le règne végétal. Il lui ajoute l'âme sensorimotrice. Le règne humain enveloppe le règne animal qui enveloppe le règne végétatif, puisqu'il possède en plus l'âme intellective. Vous voyez, alors cette distinction, elle est facile à comprendre, hein, vous voyez. Bon, elle est classique, et effectivement, de manière très allusive, Bergson y fait référence. Mais vous voyez que dans cette logique, dans la logique d'Aristote, l'homme apparaît comme l'accomplissement de la nature. Il est au sommet, hein, il est la fin ultime de la vie tout entière, vous voyez. Il est la fin ultime, hein, de la vie tout entière. Alors, si Bergson se réfère à Aristote, eh bien, c'est justement parce que Aristote continue d'influencer bien des théories de l'évolution qui sont même contemporaines. Alors, il ne parle pas de Darwin ici. Il ne s'agit pas de Darwin, hein, bien sûr. Il s'agit plutôt d'un philosophe comme Spencer, par exemple. Hein ? C'est-à-dire que, alors, évidemment, attention. Ne nous méprenons pas, Aristote est fixiste, il n'est pas évolutionniste, hein. Pour lui, il n'y a pas d'évolution. Hein. Mais ce que laisse entendre ici Bergson, c'est qu'il continue à fournir le cadre intellectuel d'un certain nombre de théories d'évolution qui voient l'évolution comme un progrès unilinéaire et cumulatif. Hein, l'évolution est conçue comme un progrès unique, en quelque sorte, qui n'a qu'un sens et qui est cumulatif, hein, qui se produit par enrichissement, qui va de degré en degré, qui va du végétal au rationnel en passant par l'animal. Or, pour Bergson, c'est là, comme il le dit dans le chapitre 2, mais plus loin, c'est une erreur capitale. C'est une erreur capitale qui empêche de comprendre le mouvement évolutif, qui empêche de le comprendre justement comme une activité qui s'est divisée, qui a progressé en se divisant et qui s'est divisée en grandissant. Alors ici, je cite un extrait justement du chapitre 2 qui se trouve page 136, plus loin que les textes que vous avez sous les yeux. Mais c'est facile à saisir. Regardez bien, écoutez bien. L'erreur capitale, celle qui, se transmettant depuis Aristote, a vicié la plupart des philosophies de la nature, est de voir dans la vie végétative, dans la vie instinctive et dans la vie raisonnable, trois degrés successifs d'une même tendance qui se développe, alors que ce sont trois directions divergentes. D'une activité qui s'est scindée en grandissant. Vous voyez ? Donc, là, c'est clair, je pense. Hein, bon. Donc, il n'y a pas une ligne d'évolution, il y en a plusieurs, notamment trois grandes. Or, tout au contraire, donc, pour Bergson, loin d'être la fin ultime de la vie tout entière, qui s'accomplirait ainsi selon un ordre, eh bien, l'intelligence humaine, ce n'est pas l'accomplissement de la nature, l'intelligence humaine, ce n'est qu'un résultat partiel de l'évolution. Qui se produit sur une ligne d'évolution. Il y en a d'autres. Et cette conception de l'évolution qui est inspirée par Aristote ne tient en outre aucun compte du phénomène d'adaptation souligné par Darwin. Parce que vous concevez l'évolution comme une sorte, vous voyez, de selon une logique, hein, qui va de degré en degré, ben, au fond, l'adaptation, la rencontre avec des circonstances extérieures, tout ça, ça disparaît. Hein, ce n'est pas pris en ligne de compte. Alors, vous voyez ce que veut faire Bergson. C'est qu'il veut à la fois se distinguer de Darwin et aussi d'Aristote, et il fait jouer l'un contre l'autre, en quelque sorte. La philosophie de Bergson consiste à jouer, si je peux dire les choses de cette façon, à jouer Aristote contre Darwin. Hein. Il y a tout de même une évolution, une logique de l'évolution qui n'est pas réductible à l'adaptation. Et en même temps, à jouer Darwin contre Aristote en soulignant l'importance du phénomène d'adaptation. Donc il y a adaptation en tant que l'élan vital rencontre l'obstacle de la matière, rencontre l'obstacle des circonstances extérieures. Et c'est à cette occasion qu'il se scinde en des directions divergentes, comme on va le voir, en faisant... Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'abord ? D'abord, on va faire la généalogie de la coupure, de la division qui va opposer le végétal à l'animal. On va commencer par là. On va faire la généalogie, première étape, de la division, hein, de la coupure qui va opposer l'animal au végétal. Et puis, dans un deuxième temps, mais là, on ne l'abordera pas aujourd'hui, il va faire la généalogie de la division qui va opposer au sein même de l'animalité l'animal qui est mu par l'instinct à l'animal humain, à l'homme, qui est effectivement conduit par son intelligence. Vous voyez ? La distinction instinct-intelligence, vous voyez ? Elle vient à la fin. Et c'est pour ça que quand vous regardez le titre de chapitre 3, du chapitre 2, pardon, hein, les trois directions divergentes, torpeur, intelligence, instinct. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est dans cet ordre-là qu'il les donne. Il met l'instinct à la fin. Alors, c'est assez déroutant, hein ? Il faut retenir ça. Donc, avant de montrer cette généalogie, une petite remarque sur la définition qu'il convient de donner de la plante et de l'animal. Comment définir la plante ? Comment définir l'animal ? Et quelle différence y a-t-il entre eux ? C'est la question qu'il faut en effet d'abord se poser. Alors, regardez bien page 4. Vous êtes maintenant page 4, ligne 131-135. Alors, attendez. Ouais, c'est là. 131-135. Pour commencer par le second point, disons qu'aucun caractère précis ne distingue la plante de l'animal. Vous voyez ? C'est ce que je vous avais dit. Les essais tentés pour définir rigoureusement les deux règnes ont toujours échoué. D'ailleurs, effectivement, les biologistes ne procèdent pas par des définitions de genre. La notion de genre, dans la notion d'espèce, ils ont abandonné. Il n'est pas une seule propriété de la vie végétale qui se soit retrouvée à quelques degrés chez certains animaux. Pas un seul trait caractéristique de l'animal qu'on ait pu observer chez certaines espèces ou à certains moments dans le monde végétal. Et les frontières sont... Hein ? Alors, difficile, par conséquent, d'établir des distinctions nettes et tranchées, car on n'a pas affaire à des objets possédant des propriétés statiques. Les définitions qui conviennent aux sciences du vivant, aux sciences de la vie, ce ne sont pas des définitions de même nature que celles que vous trouvez dans les sciences mathématiques ou dans les sciences physiques. Là, vous avez des objets bien délimités, qui ont des propriétés statiques. Ce n'est pas le cas des êtres vivants. On avait déjà vu ça. C'est-à-dire que dans le domaine du vivant, il n'existe en outre aucune créature qui ne comprenne en soi les caractères d'autres espèces ou d'un autre genre. Si la différence, donc, ne consiste pas, hein, si la différence, oui, plutôt, oui, la différence de ces êtres, ne consiste pas dans la possession de certains caractères innés, eh bien, elle consiste, comme dit Bergson, elle consiste dans les proportions avec lesquelles ces caractères ont été développés. Et là, je vous invite à lire la ligne 141. Bon, juste avant, il n'y a guère de manifestation de la vie qui ne contienne à l'état rudimentaire ou latent ou virtuel des caractères essentiels de la plupart des autres manifestations. La différence est dans les proportions. Et plus loin, ligne 143, en caractère gras, en un mot, le groupe ne se définira plus par la possession de certains caractères, mais par sa tendance à les accentuer. Et si l'on se place à ce point de vue, si l'on tient moins compte des états que des tendances, on trouve que végétaux et animaux peuvent se définir et se distinguer d'une manière précise, et qu'ils correspondent bien à deux développements divergents de la vie. Vous voyez, au fond, voilà, vous aurez des définitions en termes de tendance. Et vous aurez une question de proportion, il y aura une tendance plus accentuée dans un sens chez l'animal et beaucoup moins forte, évidemment, chez le végétal et inversement. C'est comme ça qu'il faut penser les choses. Hein. Donc, ce qu'il faut bien sûr rappeler d'abord, c'est que les végétaux et les animaux divergent à partir d'une souche commune, à partir de l'élan vital en tant qu'il est l'élan originel. Il faut toujours le rappeler. Et les tendances qu'expriment les végétaux et les animaux, qui permettent de les définir en tant que tels, comme végétaux ou comme animaux, eh bien, ces tendances, elles vont, comme on va le montrer, elles vont dans des directions opposées. Elles vont dans des directions opposées. C'est-à-dire que vous allez voir ici que leurs modes d'adaptation au milieu sont opposés. On va voir comment. Et puis, leurs modes d'action sur la matière sont également opposés. Je reprends. Hein, les modes d'adaptation au milieu sont opposés et les modes d'action sur la matière sont opposés. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, lisons, commençons par lire les lignes 148 à 153. Alors, cette divergence s'accuse d'abord dans le mode d'alimentation. Alors, c'est facile, hein. Franchement, le passage est très facile et très limpide. On n'a même pas à le commenter, presque pas. Cette divergence s'accuse d'abord dans le mode d'alimentation. On sait que le végétal emprunte directement à l'air, à l'eau et à la terre les éléments nécessaires à l'entretien de la vie, en particulier le carbone et l'azote. Il les prend sous leur forme minérale. Au contraire, l'animal ne peut s'emparer de ces mêmes éléments que s'ils ont déjà été fixés, pour lui, dans des substances organiques, par les plantes ou par des animaux qui, directement ou indirectement, les doivent à des plantes. De sorte qu'en définitive, c'est le végétal qui alimente l'animal. Vous voyez ? C'est clair. Vous voyez, là, deux directions opposées ici, hein, mais en même temps complémentaires. Opposées et complémentaires. Alors, bien sûr, il y a des exceptions, comme le montre tout de suite après Bergson. Il y a des exceptions, parce qu'on n'hésite pas, par exemple, à classer parmi les végétaux, je cite, le drosera, la dionée, le pinguicula, que vous connaissez tous, qui sont des plantes insectivores. Ce sont des plantes insectivores. Donc, vous voyez, et là, la frontière ne va pas être claire. Hein, bon. Et d'autre part, il cite encore un autre exemple, les champignons, qui sont extrêmement nombreux, qui occupent une place très très importante dans le monde vivant. Eh bien, les champignons se nourrissent, qui sont plutôt des végétaux. Les champignons se nourrissent comme des animaux, de manière parasitaire. C'est-à-dire que c'est à des substances organiques déjà formées qu'ils empruntent leur nourriture. Vous voyez ? Donc, vous voyez, la frontière, la distinction n'est pas absolument claire. Hein ? Et cela confirme bien qu'il est parfois difficile, voire impossible, de trancher quant à la question de savoir si on a affaire à une plante ou à un animal. Je cite encore Bergson. Regardez lignes 170 à 175. D'une manière générale, d'une manière générale, si l'on s'attache moins à la présence des caractères qu'à leur tendance à se développer, et si l'on tient pour essentiel la tendance le long de laquelle l'évolution a pu se continuer indéfiniment, eh bien on dira que les végétaux se distinguent des animaux par le pouvoir de créer de la matière organique aux dépens d'éléments minéraux qu'ils tirent directement de l'atmosphère, de la terre et de l'eau, mais, ajoute-t-il, À cette différence s'en rattache une autre déjà plus profonde. En tout cas, pour l'instant, n'allons pas trop vite. Vous voyez que, au fond, tout se tient dans la nature. Hein. Une écologie. Bon, on ne peut pas détruire les conditions vitales de notre existence sans se détruire soi-même. Hein. Bon, je ne vais pas vous faire découvrir. Hein. Bon, et ça, déjà, personne écologiste. Hein. Bon. Alors, ensuite, alors il dit, c'est un qui est intéressant, cette différence s'en rattache à une autre déjà plus profonde. Et ici, je voudrais attirer votre attention sur le mouvement du texte. Si vous suivez bien le texte, vous allez voir que Bergson suit un mouvement d'approfondissement. Il va des différences les plus superficielles aux différences les plus profondes. C'est ça qui est remarquable. Si vous voyez, s'il faut relire le texte, il faut voir son cheminement, sa manière, sa démarche. Hein. Et donc, et c'est explicite hein, ici. Bergson montre qu'il commence par les différences les plus superficielles et il va progressivement vers les différences les plus profondes. Mais il faut que les différences superficielles, se manifestent pour que les différences les plus profondes se manifestent à leur tour. Hein. Attention. Et vous voyez. Alors, la différence, par exemple, la différence dans le mode d'alimentation, qui est la plus superficielle, eh bien, elle va entraîner une différence dans le mode d'action. Je veux dire par là que, alors que le végétal est fixe, l'animal, dit Bergson, est nécessairement mobile. Alors, effectivement, ligne 178, ne pouvant fixer directement le carbone et l'azote qui sont partout présents, eh bien, l'animal est obligé de chercher sa nourriture, est obligé de se déplacer, de se mouvoir, en mangeant pour manger des végétaux qui ont déjà fixé ces éléments. C'est-à-dire qu'il est condamné à la mobilité. S'il veut vivre, s'alimenter. Et bien sûr, là encore, les choses ne sont pas aussi simples. Dans le détail, on assiste à des confusions, comme en témoignent, dit Bergson, les travaux de Darwin. Les travaux de Darwin sur les plantes grimpantes, ou encore sur les manœuvres de certaines plantes insectivores, telles le Drosera, telles la Dionée, pour saisir leur proie. Poc. Hein, les plantes qui saisissent leur proie, exactement comme un animal. Il y a une mobilité. Et inversement, dit Bergson, il y a une foule d'animaux qui présentent des phénomènes de fixation analogues à ceux des végétaux. Et donc, vous voyez, oui, il y a des tendances assez nettes qui séparent les deux règnes, si vous voulez, mais il y a des exceptions. Il reste en tout cas que la fixité chez l'animal, et c'est ça qui est intéressant dans le texte de Bergson, la fixité chez l'animal apparaît comme une torpeur. Voilà, la première fois que le mot est employé. Comme une torpeur. Une torpeur où l'espèce serait plongée. Comme s'il s'agissait d'un refus d'évoluer. La torpeur est présentée comme une sorte de refus d'évoluer. Et ici, ce qui est très remarquable, dans le texte, c'est que Bergson évoque pour la première fois le terme de torpeur au sujet de l'animal et non pas au sujet de la plante, alors que la plante est essentiellement torpeur. C'est la première fois qu'il emploie le mot torpeur, c'est à propos de certains animaux hein, qui, au fond, plongent dans la torpeur. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que c'est encore une fois là une façon de laisser entendre que la vie, au départ, était une. Elle portait en elle plusieurs tendances, mais au départ, elle était une. Puis, elle s'est orientée vers des tendances différentes, au point que certaines de ces tendances se manifestent chez des espèces, dans un genre qui, normalement, n'est pas caractérisé par cette tendance. Ça prouve qu'il y a quand même une unité. On trouve de la torpeur chez les animaux. Alors que c'est rare, et qu'on trouve essentiellement la torpeur chez les plantes. Donc, voyez bien que mobilité et fixité, ce sont deux tendances mères. qui englobe tous les êtres vivants, mais qui sont plus ou moins accentués selon les plantes et selon les animaux. Vous voyez ? Oui, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Mais là encore, dit Bergson, ce sont des différences superficielles. Regardez bien, page 5, ligne 205, 206. Ligne 205, 206. J'arrive à la fin, hein, rassurez-vous. Alors, 205, 206, en caractère gras. Donc ces deux tendances opposées sont si évidemment directrices des deux évolutions qu'on pourrait déjà définir par elles les deux règnes. Mais fixité et mobilité, à leur tour, ne sont que les signes superficiels de tendances plus profondes encore. Ah, alors là, c'est intéressant, on approche. C'est-à-dire que l'animal, bon, on a dit, se meut parce qu'il doit chercher sa nourriture. Donc, si on a bien compris, première distinction un peu plus profonde, il n'y a pas de mobilité sans un certain mode d'alimentation. Hein ? Au départ, la divergence elle est dans le mode d'alimentation. Et on passe du mode d'alimentation pour l'animal à la mobilité. Et ensuite, pas de conscience sans mobilité. Pas de conscience sans mobilité. C'est-à-dire que ce qu'on va comprendre, c'est que l'animal n'est sensible au monde qui l'entoure que pour autant qu'il doit s'y mouvoir. S'il était fixe, s'il était dans la torpeur, enfin il serait dans la torpeur, il serait dans l'inconscience. Et la conscience, elle n'émerge pas comme ça. Elle émerge parce qu'il y a de la mobilité. S'il n'y avait pas de mobilité, il n'y aurait pas de conscience. Et comme dit Bergson, ligne 242, alors là c'est page 6, vous voyez, on arrive. La plante, dit-il, ligne 242, la plante est donc généralement inconsciente. Généralement, il doit y avoir des petites exceptions. Quelques petites plantes comme ça, qui ont un petit peu de conscience. Donc, elle est généralement consciente. Pourquoi ? Parce qu'elle est fixe. Et alors, ici, ce qui est intéressant, c'est que si la conscience est liée à la mobilité, comme vous l'aurez compris, à l'inverse, la fixité suppose quelque chose comme une contre-conscience. Bon, c'est moi qui invente le mot, hein. Quelque chose comme une contre-conscience qui empêche la plante d'être consciente. Et à quoi je fais référence ? À ce passage qui se trouve, ligne 239-242. Regardez bien, le passage, ligne 239-242, je lis, en caractère gras. La membrane de cellulose dont le protoplasme s'enveloppe, en même temps qu'elle immobilise l'organisme végétal le plus simple, le soustrait en grande partie à ces excitations extérieures, à ces stimuli, qui agissent sur l'animal comme des irritants de la sensibilité et l'empêchent de s'endormir. C'est-à-dire qu'au fond, vous voyez, la membrane là, qui entoure la plante, eh bien, elle est la condition qui lui permet de rester dans la torpeur. Elle n'est pas réveillée par des excitations extérieures. Hein. Elle peut se replier sur elle-même, se refermer sur elle. Donc, d'une certaine façon, vous voyez que de la même manière que la mobilité est la condition de la conscience, eh bien, ce qui maintient finalement la plante dans la fixité, c'est cette espèce de membrane, cette espèce de... C'est ce qui l'empêche d'être consciente. Hein. C'est ce qui lui fait rester dans l'inconscience. Alors, à l'inverse, il y a, alors je développe rapidement, là je suis rapide, hein, il y a une solidarité entre la conscience des organismes supérieurs et le développement des systèmes nerveux, le système nerveux de plus en plus complexe. Et ça c'est très intéressant, c'est-à-dire que plus l'évolution avance, hein, je répète, plus vous accédez à des organismes supérieurs qui vont être dotés d'un système nerveux. Un système nerveux de plus en plus complexe, et ce système nerveux permet à la conscience de se libérer de l'activité réflexe et d'élaborer une activité volontaire. C'est-à-dire que vous allez, grâce au système nerveux, voir apparaître une distinction entre deux types de mouvements, mouvement réflexe, mouvement volontaire. C'est-à-dire que le cerveau permet, en quelque sorte, de retarder l'action, permet de choisir, d'hésiter, de prendre des directions différentes. Donc, cela veut dire, et c'est ça qui est important, ça veut dire qu'à mesure où la conscience qui dirige le mouvement, c'est la conscience qui dirige le mouvement, à mesure que la conscience s'autonomise et se libère du besoin qui a rimé sa vie à la seule recherche de la nourriture, eh bien, elle évolue vers des actes de plus en plus libres. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a comme une sorte de renversement. Au fond, la conscience naît parce qu'il y a mobilité, parce qu'on recherche la nourriture, mais avec le développement du système nerveux, eh bien, vous allez avoir apparition de mouvements volontaires qui permettent, au fond, à la conscience de s'autonomiser, et c'est ça qui fait advenir vraiment pleinement la liberté. La liberté, elle émerge de là. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on assiste donc à un renversement. Alors, on serait tenté de dire, comme Darwin, hein, au premier abord, que c'est à cause d'un déficit adaptatif que l'animal, hein, a besoin de rechercher sa nourriture, et c'est parce qu'il souffre d'un déficit adaptatif qu'il est mobile et conscient. Bref, on est, en un sens, c'est vrai. Mais ce qui est présenté d'abord comme un effet, comme, au fond, un déficit adaptatif, est pour Bergson, en réalité, la cause de sa cause. Je veux dire par là que ce qui paraît d'abord être un déficit adaptatif va, en réalité, dans le sens réel de la vie. C'est-à-dire qu'au fond, ce que va montrer Bergson, et ça, évidemment, je vais m'arrêter là parce qu'il faudra poursuivre, c'est qu'au fond, ce qui va se déployer de plus en plus, ce qui va apparaître de plus en plus, c'est le sens véritable de la vie, qui est conscience. Vous voyez ? Qui est conscience. C'est-à-dire que la vie va dans le sens de l'émergence de la conscience, d'une conscience de plus en plus intense, et qui va effectivement s'exprimer de manière royale, enfin, si je peux te permettre de dire les choses comme ça, chez l'homme. Oui. Mais il faut montrer par quel processus tout cela émerge. C'est-à-dire qu'au fond, la vie, elle est conscience. Mais elle n'apparaît comme telle, au fond, vraiment pleinement qu'avec l'homme. Voilà ce que veut dire Bergson. Je simplifie un peu. Hein. Donc le chapitre 2 retrace, en quelque sorte, le mouvement de libération de la conscience qui marque la direction générale de la vie et sur lequel concluront ces dernières pages. Vous regarderez les dernières pages du chapitre 2, c'est ça qu'il dit, hein, page 186. Mais sans attendre la dernière page du chapitre, eh bien Bergson suggère déjà le sens vers lequel va la vie lorsqu'il parle justement des animaux. Regardez ligne 255, 258, et je termine par cette citation. En résumé, le végétal fabrique directement des substances organiques avec des substances minérales. Cette aptitude le dispense en général de se mouvoir et par là même de sentir. Les animaux obligés d'aller à la recherche de leur nourriture ont évolué dans le sens de l'activité locomotrice et par conséquent d'une conscience de plus en plus ample, de plus en plus distincte. Bon, il faudra poursuivre. Voilà, merci. Donc, on n'est pas au bout de nos peines, il faut continuer. Hein.
Mais alors, est-ce que la conscience, pour Bergson, c'est une propriété émergente de la vie, ou est-ce que les humains ont accès à une conscience qui existerait a priori chez la vie, en fait?
Oui, je pense que la conscience est coextensive à la vie, mais qu'elle n'émerge comme telle, qu'elle n'apparaît elle vraiment comme telle pleinement que dans cet être qu'est l'homme. Et encore que, bon, il faut éviter, quand je dis ça, il faudrait éviter de penser qu'il a fait une sorte de, je dirais, de d'éloge de l'humanité. C'est pas ça que. Parce qu'il y a en l'homme, l'intelligence peut faire obstacle à la conscience. Quelque part, il y a, la conscience, elle est chez les animaux. Hein.
Parce que là, on n'a pas encore fait.
Ouais, c'est vrai qu'il faut poursuivre. Faut poursuivre. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, elle est. C'est-à-dire qu'en fait, comment il parle de la plante ? Il en parle comme inconsciente. Mais inconsciente, ça veut dire que la conscience n'est pas éveillée chez elle. Elle est potentiellement là. Mais pour qu'elle puisse s'éveiller, il faut des obstacles à surmonter. Et vous voyez que c'est avec l'animal, forcé de se nourrir, contraint de se nourrir, donc de bouger, de se mouvoir, que la conscience va se développer. Et elle va se développer à un autre niveau chez l'être humain. Là, je dis les choses très schématiquement.
À l'épreuve, en fait.
À l'épreuve, absolument. C'est ça qui est formidable, c'est ça qui interchange ces personnes, c'est cette idée que l'obstacle est quelque chose qui permet à l'élan vital au fond de rebondir en quelque sorte, de se développer. Vous voyez ?
L'art n'est de contrainte et pas de liberté. On avait fait ça quand j'étais en.
Voilà. Sauf que là, il naît de la contrainte et il va dans le sens de la liberté, si vous voulez. La liberté est quelque chose qui apparaît de plus en plus. Au fond, si vous voulez, pour dire les choses comme ça, je dirais qu'il y a une sorte d'odyssée de la conscience. Hein, une sorte de... Voilà, dans le chapitre 2. Hein. Oui ?
Et pour Bergson, d'où vient la matière ? Est-ce qu'il l'exprime en une
notion ? Alors là, oui, là, ça, vous avez une question redoutable. 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 Là, je suis même difficile d'expliquer ça comme ça.
Mais est-ce qu'il explique dans d'autres livres ?
Ah oui, dans le livre 3, dans le chapitre 3, il va aborder cette question. La matérialité, c'est une tendance. La matière, c'est une tendance.
Aussi.
C'est une tendance, oui. C'est une tendance. Alors là, c'est vrai que la dialectique entre la matière et la vie est difficile à penser. Hein. Mais c'est vrai que là, dans 2 ans, quand on aura vu le chapitre 3 et le chapitre 4... Oui, mais non, mais bonne question. Hein. C'est vrai que cette question... c'est pas quelque chose de tout fait donné, puisque tout, finalement, la philosophie de Bergson, elle décrit toujours un monde en mouvement. Même la matière, en ce sens-là, est engendrée. Oui, donc... C'est...
Et pour la physique contemporaine, la matière est une forme particulière d'énergie qui peut. Donc la matière peut surgir de l'énergie et y retourner aussi de façon assez aléatoire.
Alors, ce que je sais, c'est que dans le chapitre 3, qui est le chapitre. Ils sont tous importants, mais le chapitre 3. D'ailleurs, il reprend un peu ce qu'on dit le chapitre 2. Hein. Mais le chapitre 3, il parle des théories, la thermodynamique, etc. Enfin, alors des principes d'entropie, toutes ces choses-là, il aborde ça. Mais là, faut le temps d'en parler. C'est vrai que le terme de matière est. Pour l'instant, employé comme au fond ce à quoi nous faisons face, quoi. C'est tout. Hein. C'est un peu rudimentaire, quoi, comme façon d'en parler. Enfin, quoique dans le chapitre 1, il montre bien que la matière, elle peut comporter de la durée. Hein. Vous vous souvenez du sucre.
Donc si pour Théière de Chardin, il y avait un point alpha et un point oméga, là, il n'y a pas de point oméga.
Ah non. Théière de Chardin, c'est...
On ne sait jamais où on va, finalement. Là.
Non.
Tout reste ouvert.
Oui. Ah, alors, si vous voulez, moi, je n'ai pas lu... Enfin, il y a l'autre œuvre, celle dont parlait Nicolas Djour, qui est les deux sources de la morale de la religion, qui prolonge l'évolution créatrice. Là, il y a d'abord de la morale, la religion, la politique, etc. Bon, il parle de l'homme, hein. Mais dans le texte d'évolution créatrice, il s'en tient essentiellement à ce que montrent les sciences du vivant, enfin, ce que, aux observations que l'on peut faire avec les sciences du vivant, vous voyez. Oui, Teilhard de Chardin, enfin, je connais mal, hein, je connais peu même, pas du tout. J'ai entendu parler de lui, il était à la mode à une époque, il a été excommunié, non ? Le pape, tout même, là ? Non ? Non ? Enfin, pas excommunié, disons, son livre n'était pas à l'index ? Oui, et enfin, disons que on dirait aujourd'hui, c'est un théoricien du dessin intelligent. C'est-à-dire qu'il y a un plan, tout de même. Il y a un plan. Voilà, il y a un plan. Et ça, effectivement, voilà. Là, non, personne. Voilà. Non. Et en même temps, bon. C'est vrai, il y a des questions qui restent ouvertes, hein, si vous voulez. Hein. Je veux dire, moi, je vous dis, ma perspective, c'est de lire patiemment un texte. J'aborde des textes dont je ne suis pas spécialiste, spécialement. Bon, si vous voulez, si je étudie avec vous uniquement les textes que je connais très, très, très bien, moi, je m'ennuierai un peu. et puis, bon, voilà. Non, mais parfois, ça peut être bien, mais pas tout le temps, quoi. Donc, pour les personnes, c'est vrai que moi, c'était un continent nouveau. Je ne suis pas mécontent. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui restent à résoudre. Hein.
Par exemple, à la fin de l'évolution créatrice, je suppose que vous avez lu.
Oui.
Oui. Est-ce qu'on comprend ce que c'est que l'élan vital ?
Est-ce qu'on comprend ?
Ce que c'est que l'élan vital ?
L'élan vital, si, on a compris avec la fin du chapitre 1, tout de même. C'est cette espèce de courant de vie qui... qui anime la matière, qui traverse la matière. C'est pas une force, c'est un courant de conscience. Hein. En fait, c'est un courant de conscience. Mais un courant de conscience qui n'apparaît vraiment pleinement comme tel qu'à un certain... qu'au fond, que chez l'homme, hein, que pour l'homme. Bon, c'est la liberté. Si je simplifie grossièrement, mais elle n'émerge pas comme ça. Oui, bon, au fond, c'est toujours, enfin, Bergson dit que à la base d'une philosophie, il y a toujours une intuition, et que le philosophe, finalement, sans cesse, réécrit, reprend cette intuition, la développe de multiples manières. Bon, c'est vrai qu'on lit Bergson, on ressent toujours cette intuition centrale qui organise son œuvre, hein, qui s'exprime à travers chacune de ses pages. Bon, c'est sûr, moi je vois ça comme ça. Est-ce que ça vous a paru difficile ? Non, hein, c'est pas trop. Et je pense que par exemple, dans les pages qui vont venir, là, sur l'intelligence, l'instinct, etc., ce qu'il dit sur la technique, c'est très très intéressant. Hein. Vraiment très intéressant. Par contre, ce que je connaissais de Bergson, c'était par des extraits. Vous voyez, la connaissance un peu superficielle. Et c'est un peu malheureusement comme ça, souvent, que les auteurs sont connus, hein, par des espèces de résumés, où on connaît les extraits célèbres. Mais finalement, on n'apprécie pas de cette manière-là. On n'entre pas dans la... Vous voyez, dans la... Personne vous a rendu silencieux. Oui, bah, n'hésitez pas par écrit, hein, m'envoyer une question et puis je réponds, si je peux. Mais parfois, en réfléchissant à la question que vous avez posée, on me dira j'ai mal répondu, donc allez, je vais répondre après. C'est un peu normal. Il y a toujours. bien répondre comme ça, à brûle pour point. Alors, je pense que la suite, bah, on continue le livre 2. Alors, je vous dis, je vais regarder le nombre de pages qu'il y a après, il y a encore pas mal. Hein. Mais, bon, écoutez, ça fait rien. Et je pense que on peut arriver vraiment à faire pas mal de choses. Et bon, l'œuvre, on n'aura pas lu entièrement, mais tout de même, vous aurez, je suppose, une connaissance. Enfin, en fait, si vous voulez, quand vous avez été habitué à lire le texte, vous êtes approprié un peu la méthode de l'auteur, vous pouvez cheminer beaucoup plus facilement tout seul. Tout de même. On peut arrêter là, alors ?
Oui.
Ok.